Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Quelle analyse du discours du Premier ministre à New York sur le thème du grand dialogue de ce soir devant les Nations Unies? Le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, n'a pas fait de la dentelle. Il a accusé la France d'avoir abandonné le Mali en plein vol. Il se référant à la décision des autorités françaises de retirer la force Barkhane du Mali, obligeant le pays à explorer d'autres voies et moyens avec d'autres partenaires. Ce discours du chef du gouvernement a été apprécié par beaucoup de Maliens, mais que pensent les analystes de cette adresse de Choguel Kokala Maïga? Trois analystes donneront leur point de vue au cours de ce grand dialogue. Il s'agit de Bakabini Keïta, politologue, Mohamed Mamata Touré, président de l'association Anko Mali, et Boubacar Boukoum, spécialiste des questions sécuritaires et politologue également. Je suis Imran Akilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue.
Le grand dialogue.
Le chef du gouvernement s'est exprimé sur la situation sécuritaire du pays en marge de la 76e Assemblée générale des Nations Unies tenue à New York. Choguel Kokala Maïga a expliqué que la situation sécuritaire continue progressivement de se détériorer au point que des pans entiers du territoire national échappent au contrôle du gouvernement, mais concitoyens vivent sous l'emprise de groupes armés terroristes dans le déni de leurs droits les plus élémentaires. Suivons cet extrait de son discours.
Les populations maliennes sont exacerbées aujourd'hui devant les tueries de masse, des villages rasés de la carte et d'innocents civils fauchés, dont les femmes et les nourrissants souvent brûlés vifs. Les Maliennes et Maliens ont le net sentiment que la mission assignée à la MINUSMA a changé en cours de route, et notamment depuis 2015, alors même que les défis qui ont justifié son déploiement sont restés constants. En effet, contrairement aux attentes du peuple malien, l'environnement notoirement terroriste dans lequel la MINUSMA a été déployée en 2013 s'est dégradé continuellement. Au fil du temps, il s'est même métastasé. C'est dans ce contexte de menaces préoccupantes que l'opération française Barkhane annonce subitement son retrait en vue, dit-on, d'une transformation en coalition internationale dont tous les contours ne sont pas encore connus. En tout cas, pas de mon pays, pas de notre peuple. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires.
Bakabini Keïta, comment avez-vous trouvé cette adresse de Choguel Kokala Maïga devant l'ONU?
Merci Maïga de m'avoir donné la parole. D'abord, je voudrais dire que c'est quand même un discours original, un discours respectueux, un discours respectable, un discours clair, précis et concis. C'est un discours souverainiste, en tout cas patriotique. On peut aimer ou pas le PM, le discours qu'il a eu à prononcer, à mon avis, c'est ce discours qu'il fallait tenir devant les partenaires. Et je crois qu'il l'a toujours tenu à l'intérieur du Mali. Et cette fois-ci, à la tribune de l'ONU, il est parti reprendre le même discours. Au fait, si vous me posez cette question, donc après avoir dit que après avoir présenté le discours, décrit le discours, je voudrais aussi dire que c'est un discours complet qui comprend deux, je crois, aspects fondamentaux. Le premier aspect, c'est un constat. Et ce constat est un constat d'échec. Constat d'abord d'inefficacité de l'intervention des forces étrangères, que ce soit celle des Nations Unies, que ce soit celle de la France et puis de l'Union européenne. Donc on voit que malgré cette intervention internationale, l'insécurité ne fait que grandir de jour en jour au Mali. Et ça, le Premier ministre n'a pas raté l'occasion de le dire. C'est un constat d'échec de la part des forces internationales, mais en même temps, c'est un constat d'impuissance également du côté du Mali que le Premier ministre a eu à faire. Si les forces internationales sont arrivées dans notre pays, c'est parce que nos autorités sont parties de l'idée que à l'état actuel de notre armée, nous ne sommes pas à mesure de contrecarrer les groupes armés qui sont venus nous envahir. Et donc c'est à partir de ce premier constat qu'on a fait appel aux forces internationales. Mais malheureusement, l'attente n'a pas été comblée. C'est ça que le Premier ministre a eu à dire. Donc ça, c'est le constat. Il y a des perspectives. Évidemment, au regard de ce constat, puisque nous sommes impuissants à l'état actuel de notre armée de faire face à l'insécurité, au problème de l'insécurité, donc il faut faire appel à l'international. L'international a échoué. Nous ne sommes pas capables de le faire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, le Premier ministre a dit, nécessairement, le Mali a tout à fait le droit de s'orienter vers d'autres partenaires. Et de demander aux Nations Unies, puisqu'il a eu à le dire depuis avant qu'il ne soit donc, à ce sommet des Nations Unies, il a dit clairement que les Nations Unies, la mission des Nations Unies, la résolution des Nations, la résolution initiale des Nations Unies a changé en cours de route. Ce qu'il faut aussi ajouter, c'est qu'il a dit, bon, je ne le dirai pas comme vous l'avez dit, je pense que ce n'est pas de cette manière que le Premier ministre l'a dit. Et il a dit effectivement qu'il y a une espèce d'abandon, donc évidemment en plein vol du Mali par la France. Donc espèce d'abandon. Donc on n'est pas totalement dans l'abandon, mais il y a un risque d'abandon. Et donc puisqu'il y a ce risque d'abandon, le Mali ne peut pas s'asseoir et regarder et croiser les bras sans trouver d'autres solutions. Et je pense qu'entre autres de ces solutions-là, il faut se tourner vers d'autres partenaires comme par exemple la Russie.
Nous arrivons. Selon Bakabini Keïta, c'est un discours respectueux, un discours clair, patriotique, précis, complet, sous deux aspects fondamentaux. L'inefficacité des forces étrangères, l'échec des partenaires et l'impuissance des forces armées maliennes. Que dites-vous par rapport à ça?
Merci. Donc, je dirais tout d'abord que après 61 ans d'indépendance, que moi je qualifierais de dépendance, parce que pendant 61 ans, nous sommes à la merci de certaines puissances étrangères. Et Dieu faisant bien les choses, il vient de nous envoyer un jeune colonel malien qui n'a aucun traumatisme de la colonisation, comme Macron avait qualifié nos vieux chefs d'État au Burkina d'avoir le traumatisme de la colonisation. Donc maintenant, ce jeune officier, il a proclamé l'indépendance du nouveau Mali dans la nuit du 21 au 22 septembre 2021. Et Dieu faisant encore bien les choses, il nous a donné un autre premier ministre qui nous doutions de lui de pouvoir gérer cette situation et arriver jusque là où il est arrivé ici. Et après la proclamation de l'indépendance du nouveau Mali, notre premier ministre Choguel Kokalamega, devant le Conseil des Nations Unies, est parti valider cette déclaration d'indépendance. Et aujourd'hui, nous, peuple du Mali, c'est à nous de concrétiser cette indépendance. Tout ce que Choguel a dit, il a dit devant ses pairs qu'aujourd'hui, il est temps à ce que le Mali revienne aux Maliens. On a trop souffert. Pendant plus de combien d'années, toutes ces puissances internationales sont chez nous. Et tous les jours que le bon Dieu fait, la situation sécuritaire se dégrade. Et Choguel était devant eux pour qu'enfin les Nations Unies puissent clarifier leur position sur la situation du Mali.
Thank you. Alors, Bakabini Keita parle d'un discours respectueux, clair, patriotique. Mohamed Mamata Touré parle de rupture de l'emprise de la colonisation. Quelle est votre lecture du discours du chef du gouvernement?
Écoutez, je ne peux que m'inscrire dans la droite ligne de mes deux prédécesseurs qui sont sur la même lancée que moi, dès lors que j'estime aujourd'hui que M. Maïga n'a fait que dire ce que l'ensemble du peuple malien pense tout bas. Donc c'est à tout son honneur d'être en phase avec son peuple. Parce que pendant très longtemps, la difficulté que nous avons eue avec nos dirigeants, c'est qu'ils se sont installés dans une forme de réelle politique qui fait qu'effectivement, ils chantent la musique des autres tout en étant en déphasage total avec les populations. Pour une fois, nous sentons cette fibre patriotique qui a vibré à un niveau que nous estimons aujourd'hui peut apporter le renouveau du partenariat. Ça veut dire quoi? Pendant très longtemps, le Mali a disparu de la scène internationale et l'attitude que M. Choguel Kokala Maïga a fustigée au niveau des Nations Unies, ça veut dire simplement dire que pendant très longtemps, le système des Nations Unies n'a eu que du mépris pour nous. C'est ça la triste réalité. Ça ne peut pas se comprendre qu'un État que vous respectez, que vous puissiez lui imposer des choses et que vous ne puissiez pas aller dans une dynamique d'échange et de discussion pour les stratégies à mettre en place. La stratégie, fondamentalement, est définie par l'État souverain et apportée sur le concert des nations pour être discuté, accepté, validé ou invalidé. Mais nous avons senti que ces dernières années, nous n'existons nulle part. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une aubaine qui, sous le leadership de Assimi Goïta, parce qu'il faut le dire, un Premier ministre n'est fort que lorsqu'il a un chef d'État qui valide le mécanisme. Donc aujourd'hui, comprendre que ce duo permet d'enclencher un mécanisme patriotique et réaffirmer la souveraineté de l'État du Mali aujourd'hui, ça, on ne peut que les féliciter. Maintenant, il faut bien attendre l'exécution, le mécanisme, déclarer une indépendance que, comme il l'a dit, nous avons déclaré en 60 sans pouvoir le sécuriser, sans pouvoir le concrétiser est une chose. Maintenant, assumer cette posture en est une autre.
Est-ce que ce discours, comme dit Mohamed Mamata Touré, est un discours de rupture de l'emprise sous la colonisation? Est-ce que cela rassure le peuple malien?
Bon, écoutez, je pense que ça devrait rassurer. Maintenant, est-ce qu'ils ont tout la réflexion stratégique nécessaire pour dire comment il faut contrecarrer? Parce que en réalité, ces nations ne vont pas aussi attendre que le Mali fasse une certaine posture face à certaines grandes puissances. Vous avez vu déjà la réaction de la France, la réaction de l'Allemagne et de l'Union européenne de façon générale. Donc, cette forme de chantage que l'Occident nous fait à travers cette forme de collaboration au niveau de l'assistanat qui est engrangé, au niveau de la collaboration technique qui est enclenchée, dans laquelle nous sommes piégés en réalité, fait qu'aujourd'hui, beaucoup ont l'impression qu'aujourd'hui, en partant vers cette rupture, alors nous risquons de connaître des problèmes. Je dis non, c'est archi faux, c'est vrai. Autant nous n'allons pas nous refermer sur nous-mêmes pour prétendre vivre en autarcie, autant le reste du monde ne peut pas aussi nous ignorer. Donc je pense qu'à la date d'aujourd'hui, réaffirmer cette posture par rapport au Mali est une chose importante. Maintenant, il s'agit de gérer, de commencer déjà à se faire respecter et à faire respecter son opinion. On s'est rendu compte pendant très longtemps, même nos stratégies de guerre sont définies par d'autres. Choguel l'a dit dans une de ses vidéos, comme quoi même si nos avions devraient survoler des zones, ces zones ne sont interdites par nos partenaires, soi-disant qu'ils y font des entraînements. Ou on est dans un État souverain, ou on est indépendant, ou autrement dit, on est véritablement sous tutelle. Je pense que c'est cette tutelle aujourd'hui qu'on est en train de lever et que je pense que le duo Assimi Choguel Kokala Maïga s'inscrive dans la dynamique où les Maliens les attendent réellement. En tout cas, au niveau de la déclaration, jusqu'à la preuve du contraire, on est en phase avec eux.
Bakabini Keita, est-ce que le chef du gouvernement a mesuré dans ses propos en accusant la France d'abandonner le Mali, comme vous avez rectifié à votre manière, un risque d'abandon du Mali?
Non, je pense qu'il a... Je ne suis pas dans les secrets du pouvoir pour savoir ce qui est en train de se tramer, mais je sais que ce sont aussi des hommes intelligents responsables qui sont à la tête donc, du pays, que ce soit le président de la transition Assimi, le colonel Assimi Goïta, que ce soit le PM, et puis tous leurs collaborateurs au niveau du CNT et avec toute l'équipe gouvernementale. Je pense que c'est des gens assez sensés, assez raisonnables, qui savent ce qu'ils font. Et donc, on peut dire que le PM ne peut pas se lever un beau jour lui seul à aller prononcer un tel discours. Je pense que aussi que c'est ça que les gens doivent comprendre. Donc, que les gens sortent, en tout cas, de l'idée qui consiste à tirer à bouler sur le PM, comme si c'est lui seul qui décide les choses, en l'isolant du président. Mais la stratégie, je pense qu'à son sens, c'est de faire en sorte d'opposer, comme on l'a fait dans d'autres occasions, par exemple, je me rappelle du cas d'Ibrahim Boubacar Keïta. Pour mieux l'atteindre, on l'a isolé de l'ancien PM Soumaïl Boubey Maïga. Et donc, en l'isolant de lui, il devient plus faible, donc il devient fragile. Et donc, j'ai peur que ça ne soit pas la même logique qui soit entreprise par ceux qui sont en train de tirer sur le PM, qui savent que si le PM est là, évidemment, des acteurs politiques qui s'agitent ne pourront absolument rien faire contre l'actuel président de la transition.
Donc, vous partagez l'idée de Bokoum qui disait que le duo Choguel Kokala Meïga et colonel Assimi Goïta est en marche?
Mais bien entendu, c'est pas que, je ne dirais même pas que c'est un duo, parce qu'au-delà des deux, il y a aussi d'autres, il y a tout un arsenal donc, qui est derrière aussi ces hommes-là. Si le PM seul, le président de la transition, ne peut pas porter le Mali, donc il y a d'autres hommes qui sont au pouvoir, qui ne sont pas au pouvoir, il y a aussi le peuple. Regardez la sortie du peuple malien, parce que là, il faut qu'on clarifie aussi cette situation. Les gens confondent la notion de peuple et la notion de population. Le peuple, c'est la partie active de la population en termes de mobilisation pour les élections, mais aussi en termes de mobilisation de rue. C'est ça, le peuple. Maintenant, la population, c'est l'ensemble, évidemment, de tous les citoyens, que vous soyez hommes, femmes, que vous soyez à l'extérieur, que vous soyez de l'intérieur. C'est ça, la population. Donc, il y a une confusion terrible dans l'opinion, effectivement, de ces deux notions-là, à savoir le peuple et la population. Donc, vous avez, c'est ce que j'ai dit, le peuple malien a investi le 22 septembre les autorités maliennes de la mission de le libérer, de la mission en tout cas de trouver son indépendance, sa souveraineté. Donc c'est à elle plutôt de trahir ou d'accomplir cette mission. Le peuple malien est sorti, donc ils ont le soutien des Maliens, d'une majorité écrasante des Maliens. C'est vrai, je n'ignore pas le fait qu'il y en a des gens qui ne sont pas d'accord, notamment on me cite beaucoup de partis politiques, on me cite que ce sont les plus grands partis politiques qui ne sont pas d'accord avec telle ou telle action. Mais ce que les gens doivent aussi savoir, en matière politique, il n'y a jamais unanimité. D'ailleurs, tant qu'il y a la politique, il y a toujours division, il y a toujours conflictualité. Donc, vouloir rêver d'un consensus parfait, d'une unanimité parfaite, évidemment, nous conduira à une situation que nous avons connue avec KTT, le fameux consensus.
Donc, la politique... vous voulez dire que la refondation du Mali se dessine?
La refondation du Mali se dessine avec ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Donc nous sommes dans la politique même, c'est ça. Il y a des gens qui sont avec toi, il y en a qui ne sont pas avec toi. Mais ceux qui sont opposés à toi, ça ne veut pas dire que c'est eux qui font le Mali. Même si c'est des partis, ce sont des grands partis, il faut que ces partis comprennent que la politique de la chaise vide n'a jamais marché. Donc je pense que c'est à eux de comprendre qu'il faut peut-être prendre part aux assises, aller dire ce qu'on pense, ce qu'ils pensent réellement, au lieu de rester en marge. Donc ça n'a jamais marché. Donc on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais on peut toujours continuer à travailler avec lui.
D'accord. On n'est pas d'accord avec quelqu'un, mais on peut continuer toujours à travailler avec lui, selon Keïta. Et Bokoum qui disait que le duo est en marche. Alors dites-nous, ce propos de Choguel Kokala Meïga, Choguel Kokala Meïga a-t-il mesuré ce propos en accusant la France d'abandonner le Mali?
Bon, comme on le dit, derrière tout grand homme, il y a un grand homme. Donc maintenant, comme Bikini Keïta vient de le dire, si vous voyez que Choguel a eu l'audace d'aller faire cette déclaration devant le Conseil des Nations Unies, c'est qu'il sent qu'il y a un poids qui est derrière. Et ce poids, c'est qui? Et c'est le président de la transition et la population ou même le peuple qui est là. Parce que le peuple malien en a vraiment assez de cette occupation qui n'a que trop duré, avec tant de militaires qui sont chez nous. Donc Choguel, je trouve qu'aujourd'hui, il a confiance en lui, il a confiance en ce qu'il a dit et il s'assume aussi, et avec tous les Maliens. Donc maintenant, même sa déclaration, si vous voyez qu'il a eu le courage de le prononcer comme ça, ça c'est pour mieux toucher la sensibilité de ses interlocuteurs et les pousser à changer leur façon d'intervenir. Donc c'est pour cela qu'il a tenu à les rappeler de tout ce qui s'est passé comme événement triste. Les tueries, les saccages des villages, les bétails qui sont emportés et puis tant d'autres. Donc je crois qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas que Choguel mesure ce qu'il a dit. On a vu dans le passé, il y a beaucoup de chefs d'État africains qui avaient été victimes de leur déclaration devant le Conseil des Nations Unies. Et aujourd'hui encore, c'est à nous d'être devant Choguel et derrière Choguel et puis tout le gouvernement pour pouvoir franchir cette étape si dure, si difficile que eux seuls ne peuvent pas tenir.
Est-ce que la population ou le peuple, comme il a donné des différences entre la population et le peuple, est-ce que cette population s'attendait à un tel discours?
Bon, ça a surpris plus d'un, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient que Choguel allait partir là-bas juste pour caresser les mots, comme beaucoup le faisaient d'ailleurs, et que beaucoup continuaient à le faire. Donc ça a été vraiment une surprise depuis que nous avons eu écho de ce que Choguel a dit. Donc c'était vraiment un honneur pour tous les Maliens de voir leur Premier ministre devant le monde et faire une telle déclaration si courageuse et si audacieuse aussi.
D'autres le qualifient de populiste?
Bon, si ceux qui le qualifient de populiste, là, nous sommes tous dans le Mali, s'il est populiste ou pas, là. Donc pour la mise en œuvre et puis pour que cette chose soit concrétisée, et ils sont ici, nous sommes là. Si ça chauffe, ça va chauffer, nous serons tous là et ils ne vont pas aller en Europe et puis nous laisser là. Donc vous savez, comme M. Keïta l'a dit, en matière de politique et en matière de ces genres de situations, il n'y a jamais de consensus. Toujours il y aura des gens qui seront de l'autre côté.
Ce propos de Choguel Kokala Maïga peuvent-ils avoir un impact favorable sur la gestion de la crise malienne par la France et ses partenaires?
Absolument. Je pense que d'abord, ce qui le taxe de populiste, je pense qu'il n'a pas essayé de charmer l'Occident. C'est ce qui aurait pu choquer, passer pour un aspect populiste en réalité. Maintenant, être en phase avec son peuple par rapport à des décisions qui peuvent être lourdes de conséquences, je pense que c'est très responsable. Alors, au-delà de cet aspect, aujourd'hui, penser qu'on peut avancer et faire avancer les choses dans cette posture, je pense bien. Parce qu'en fait, le renouveau du partenariat qui a été demandé, c'est un renouveau multilatéral. Pas dans un système où nous sommes inféodés à un pays, ou que ce soit la France qui soit obligée de nous porter en réalité. Aujourd'hui, cette franchise va permettre effectivement aux autres partenaires de regarder concrètement ce qu'il y a sur le terrain et d'avoir une oreille attentive aux propositions que peut apporter le Mali aujourd'hui. Ce que nous avons dit d'abord dans un premier temps dans le discours de Choguel Kokala Maïga, que les Nations Unies ont échoué, la France a échoué. Et nous avons une proposition alternative. Elle peut plaire à certains de l'Europe ou pas, mais quand même, c'est une solution pour laquelle le Mali va très certainement opter. Donc, à partir de cet instant, que nous ne pouvons pas accepter qu'on nous impose avec qui nous devrions travailler, parce qu'on a écouté sur les médias internationaux où on a taxé Wagner de mercenaires, je dis bien, de mercenaires, alors que nous savons que dans la Légion française, il y a des mercenaires, ce n'est pas des Français. Donc, aux États-Unis, nous avons un même modèle. En Grande-Bretagne, dans tous les pays, on a ce modèle de société privée. Alors, la Russie peut ne pas plaire aux Occidentaux, mais aujourd'hui, nous rentrons dans le giron russe. En réalité, il s'agit d'une collaboration avec la Russie. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'en réalité, qu'on ne se voile pas la face, la Russie n'est pas un pays capitaliste où n'importe quelle entreprise privée peut s'installer n'importe comment. Ce n'est pas possible. C'est des entreprises qui sont sous contrôle. Donc, en réalité, aujourd'hui, il s'agit d'apporter une autre proposition à partir du modèle russe. Donc, l'équipement,
l'entraînement, et tous ces ingrédients vont rentrer en ligne de compte. Donc je pense que cela permettrait aux Occidentaux aussi de réviser leur posture. S'ils ne veulent pas définitivement quitter le Mali, s'ils ne veulent pas définitivement arrêter de collaborer avec le Mali, donc forcément, ils vont apporter d'autres approches de collaboration. Donc je pense que ce n'est que tout bénéfice pour le Mali aujourd'hui d'avoir la possibilité de collaborer avec la Russie, de collaborer avec la Chine, de collaborer avec les autres pays. Il faut qu'on ait cette liberté. Et je pense que le message que Choguel Kokala Maïga a donné aujourd'hui au niveau des Nations Unies, c'est de dire que dorénavant, nous ne serons plus inféodés à un autre État futur, l'État colonial.
Est-ce que la France a-t-elle apprécié ce discours du chef du gouvernement, à votre avis?
Mais écoutez, naturellement, ils ne vont pas apprécier. C'est tout à fait normal. La guerre diplomatique, ça fait partie. Parce que pendant très longtemps, nous avons été ignorés par tout le monde. Et voir un petit pays comme le nôtre tenir tête à un pays comme la France, c'est peut-être que ça peut être frustrant. Mais malheureusement, la France doit se raviser que, petit ou grand, nous sommes quand même un État souverain. Donc, à partir de cet instant, je pense que les États qui sont dans ces postures doivent nous regarder en tant que des États, pas comme des États anciennes colonies, pas comme des Africains, mais dorénavant, on doit être respecté comme étant une nation qui a aussi son opinion, sa vision. On n'est pas obligé de partager la vision française ou la vision occidentale. Nous avons aussi notre culture, nous avons aussi notre identité. Donc, à un moment donné, il faut que nos États africains apprennent à se faire respecter. Et je pense que c'est ce tempo qu'aujourd'hui Choguel Kokala Maïga donne. Donc je pense que les États africains qui ont eu vent de ce discours doivent se réveiller et comprendre que dorénavant, les Africains ne doivent plus accepter. Je dis que les Africains ne doivent plus accepter que malgré que nous soyons les États les plus riches en termes de ressources naturelles, mais c'est inadmissible que nous soyons les États les plus pauvres et les plus démunis au niveau de l'indice de développement humain. Ce n'est pas acceptable parce que les rapports du monde doivent changer. C'est ce que nous appelons le renouveau du partenariat. D'abord au niveau du Conseil de sécurité, au niveau des Nations Unies, mais nous ne sommes pas suffisamment bien représentés. Nous n'avons pas voix au chapitre. Ça montre quelque part que nous sommes exclus. Au niveau de l'OMC, nous avons des difficultés. L'ajustement structurel à travers le FMI et la Banque mondiale nous est imposé par un tel système. À un moment donné, il faut que les États africains se réveillent pour dire qu'on doit maintenant aller dans l'économie réelle. Et c'est cette économie réelle qui va nous permettre effectivement d'avoir la souveraineté politique. Parce que tout ce qu'on va vouloir engager comme mécanisme de développement à la base n'est possible qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel je parle, que si l'Occident nous donne des additifs en termes de financement, en termes d'accompagnement. Mais à un moment donné, il faut que nous puissions être capables, par nous-mêmes, de pouvoir enclencher le processus, ne serait-ce que donner une amorce.
Bakabini, beaucoup estiment que les rapports doivent changer. Est-ce que la France sera-t-elle contente de tels discours?
Non, mais écoutez, la France ne sera pas contente, mais ce n'est pas seulement la France qui ne sera pas contente, mais il y a aussi des Maliens qui ne tirent pas profit de cette situation aussi, qui ne seront pas contents.
Pourquoi?
Mais écoutez, moi je vous dis que nous sommes dans des logiques de lutte pour le pouvoir et pour les intérêts. Et donc dans ce contexte-là, évidemment, ce n'est pas seulement les Français, c'est aussi des Maliens qui ne seront pas contents. Parce que vous savez très bien qu'il y a des Maliens qui sont en relation étroite avec une certaine élite française qui mène des affaires ensemble. Et donc ces Maliens-là ne seront pas évidemment contents. Donc c'est eux qui également font qui lancent des discours de contre-campagne qui consistent à dire qu'on va payer des mercenaires à je crois, 6 milliards par an. Donc, ce qui fait, je crois, 6 millions par mois, quelque chose comme ça. Donc, Wagner, c'est des mercenaires. On entend des discours de ces as. Donc, c'est normal. Au fait, ces conflits-là, c'est normal. J'entends même des gens dire que, bon, ce n'est qu'un discours, on verra. Mais ce que je voudrais dire à ce niveau, ceux qui disent que ce n'est qu'un discours, il faudrait qu'ils comprennent qu'en matière politique, qu'il n'y a pas de politique sans discours et qu'il est impossible de la même manière dissocier le recto et le verso de la même feuille, de cette même manière, il est impossible de dissocier le discours de l'action en politique. L'action peut brûler un pays, peut mettre un pays à feu et à sang. Un discours peut évidemment mettre un pays à feu et à sang, comme un discours peut transformer un pays en un jardin de rouge. Donc ne me dites pas que tel discours, c'est simplement des mots. Non, le discours a des effets. C'est parce que le discours a des effets qu'il y a des réactions, que les gens répliquent pour dire des choses qui sont contre ce discours-là. C'est parce que également que ce discours est porteur des aspirations d'un peuple. Et finalement, aspiration que forcément d'autres ne partagent pas. C'est ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire que ce que les gens doivent comprendre, que le vivre ensemble des hommes, ce qui structure le vivre ensemble des hommes, c'est la division, c'est la conflictualité. Dès que vous êtes deux à vivre ensemble, évidemment, forcément, il y a des conflits d'intérêts, il y a des conflits de pouvoir, donc qui s'installent entre vous. Donc si on ramène cela à l'échelle d'une nation, évidemment, on ne peut pas éviter ces divisions, on ne peut pas éviter ces conflits. La France ne sera pas contente. Alors, évidemment, maintenant, ce que je voudrais dire aux autorités maliennes, s'ils n'ont pas pris de dispositions jusque-là, et je sais que des dispositions certainement ont été prises, parce que, comme vous l'avez dit, d'autres l'ont dit avant moi, que le Mali, par rapport à la France, est un petit pays. Évidemment, c'est courageux le discours, mais il ne faudrait pas se limiter à seulement à une expression de courage. Il faudrait aussi élaborer des stratégies. Et je crois que j'ai fait un article il y a 3 semaines de cela qui s'intitule « Les rapports franco-maliens entre amitié et mésentente, point d'interrogation ». Et là, je conclue mon article en disant, mais si le Mali aujourd'hui, en faisant une métaphore, que si un lapin ou un lièvre est pourchassé par un lion, il n'appartient pas à ce lièvre d'aller se cacher derrière un autre lièvre. Mais il lui faut aller derrière un autre lion qui puisse contrecarrer la puissance du lion qui lui pourchasse. Ça veut dire quoi, concrètement, dans les rapports internationaux pour le Mali? Ça voudrait dire que si aujourd'hui le Mali veut tenir tête à la France, évidemment, donc ce qui m'amène à dire également à nos autorités de tirer les leçons de l'histoire, il y a beaucoup de chefs d'État qui ont été assassinés, évidemment, par les autorités françaises, par les autorités occidentales, parce que ceux-ci n'ont pas, évidemment, pensé au fait que si quelqu'un est plus fort que toi, il faut être réaliste.
Alors, que faut-il attendre par trouver d'autres voies et moyens, par d'autres partenaires pour assurer de façon autonome notre sécurité?
Non, je suis en train de dire que si quelqu'un est plus fort que toi, il te domine. Maintenant, si tu veux te libérer de sa domination, mais il faudrait trouver un autre partenaire plus responsable, plus disposé à traiter, en tout cas, d'égal à égal les rapports internationaux. Donc, j'invite les autorités maliennes, si déjà ce n'est pas un projet pour eux, à s'inscrire dans la logique, en tout cas, à trouver un autre partenaire plus puissant que le Mali, qui puisse contrecarrer, effectivement, la prétention hégémoniste de la France.
Quand Choguel disait à l'ONU de changer de paradigme dans la lutte contre le terrorisme, concrètement, qu'est-ce qu'il veut dire à l'ONU?
Bon, Choguel veut juste leur dire que la vieille méthode là, dans laquelle ils étaient, donc maintenant, c'est de changer ça. La vieille méthode, c'est quoi? On nous amène une force qui s'appelle l'AMINUSMA et on nous disait que c'est une force d'interposition. Et nous avons vu que cette force d'interposition s'est changée en ONG humanitaire. Donc, dans cette situation, vous savez, dans ce pays, je rebondis un peu sur ce que Bignini dit là. La France ne peut jamais cautionner... Donc, la France... Monsieur Keita, donc, la France ne peut jamais cautionner ce que Choguel a dit. Parce que la France voit son intérêt s'envoler en air. Donc, maintenant... Vous savez, c'est pourquoi nous avons toujours dit que les ennemis du Mali ne sont pas les ennemis du dehors, mais ce sont les ennemis du dedans qui sont là. Il y a deux types de colons. Il y a le colon blanc qui est la France, et il y a le colon noir aussi, qui sont ceux qui sont chez nous, qui se battent plus pour l'intérêt de la France que du Mali, et qui sont vraiment... les racines du mal de tout ce que ce pays traverse aujourd'hui. Si vous prenez un peu le centre du Mali, la France dit qu'elle n'intervient pas là-bas. Elle n'a aucune base là-bas. Mais il y a un vide qui est là. Ce que Choguel a dit, il faut diversifier les partenariats. Pourquoi nous ne cherchons pas des partenaires extérieurs plus fiables, plus...
Mais qu'est-ce que le Mali gagnerait dans une collaboration avec d'autres partenaires comme l'a annoncé le PM?
Mais c'est juste une convention de gagnant-gagnant. Au moment où nous allons faire les accords, là, il ne faut pas que ce soit l'accord de défense avec la France. Ils vont s'asseoir et regarder droit qu'est-ce que le Mali gagne, qu'est-ce qu'eux, ils gagnent. Donc maintenant, si on fait ce partenariat gagnant-gagnant, je crois que le Mali va s'en sortir et le Mali gagnera gros aussi.
Est-ce que cette façon de lutter autonome, comme l'a dit le Premier ministre, avec d'autres partenaires, se fera sans les autres partenaires?
Bon, tout dépend de la volonté et de la manière de faire les accords aussi ou les conventions qu'ils vont établir entre eux.
Quel pourrait être l'impact d'une telle collaboration dans la relation bilatérale avec la France si le Mali collabore?
Écoutez, la France est un pays qui est en train de perdre pied dans le monde en réalité. La force de la France aujourd'hui, c'est les États-Unis. Ils sont sous les ailes des États-Unis. C'est pourquoi aujourd'hui, la carte URSS est une carte très intéressante. Quand vous regardez le système du FMI et de la Banque mondiale, vous avez une Banque mondiale, le FMI, qui sont un machin de la France et des États-Unis, qui est dans un modèle néocolonial. C'est ça la triste réalité. Donc aujourd'hui, vous avez une France qui est en perte de vitesse en Europe. Et vous avez le système économique mondial aussi qui est en perte de vitesse. Donc, ils sont en fin de course. Cette forme hégémonique du monde, le système est en train d'être chamboulé. Donc, c'est des nouvelles cartes à partir du printemps arabe. Il y a une autre perception des nouvelles normes de bonne gouvernance à travers le monde. Donc, aujourd'hui, ces États qui se disent développés doivent effectivement, comme Choguel l'a dit, changer de paradigme. Ça veut dire simplement quoi? Qu'aujourd'hui, les relations que nous avons avec le reste du monde doivent forcément changer en faveur du Mali. Parce que quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui à travers l'emprise que le cartel bancaire a sur nos pays et qui nous empêche de nous développer, j'aimerais dire à nos compatriotes, mais qu'est-ce qu'on a gagné avec la France depuis 60 jusqu'à nos jours? Pourquoi les gens veulent se faire autant peur? Pourquoi on veut penser que sans la France, que le Mali va disparaître?
D'accord, mais pourquoi la France aussi a si peur que le Mali collabore mais avec d'autres
c'est
partenaires?
C'est tout à fait normal. L'emprise que la France a sur ses ex-colonies n'est autre chose que l'emprise sur les ressources naturelles. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, vous avez un pays comme la France qui n'exploite pas directement l'or chez nous, mais qui est caché derrière les multinationales. Mais c'est le système des multinationales qui finance les sociétés secrètes, qui inféodent nos chefs d'État, qui font qu'aujourd'hui, nous avons du mal à rentrer dans la richesse réelle. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la monnaie que nous mangeons, le CFA, est arrivée à la France. Et ce n'est que du papier qui est imprimé à Clermont-Ferrand.
Après ce discours, à quoi faut-il s'attendre?
Mais il faut s'attendre à des représailles de la part de la France. Ils vont fermer les robinets, ils vont essayer de... Oui, c'est pourquoi aujourd'hui, nous pensons que nos autorités doivent prendre de l'avance. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Nous sommes en guerre. Il faut que les autorités le comprennent. Donc l'état de guerre peut être décrété. Aujourd'hui, nous avons une seule loi aujourd'hui qui est capable de très bien structurer et de bien protéger notre état. C'est la loi 04051 portant organisation de la défense de la nation. Cette loi permet aujourd'hui d'aller soit à la réquisition, soit même à la nationalisation de nos ressources s'il le faut. Aujourd'hui, c'est à nos partenaires de voir. Est-ce qu'ils veulent que nous nationalisons toutes nos ressources pour créer un conflit à travers le monde, ou est-ce qu'ils accepteront que nous posons cette carte des richesses sur la table des Nations Unies pour que nous discutions, pour que nous renégocions, pour que nous contractions un nouveau contrat qui permette à chacun de gagner et que notre souveraineté, elle puisse quand même prendre un coup là-dessus. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, quand vous regardez, tout ce qui se passe autour des ressources. Sur quoi l'Occident fait le chantage? On va vous dire qu'on vous doit accompagner dans tel financement. Ok, comme vous n'êtes pas des bons élèves, vous ne voulez pas accepter ce que nous vous disons, donc on va fermer le robinet. Et vous prenez au niveau de l'armée, les formations, on peut arrêter de former nos militaires. Ils peuvent décider de ne plus nous donner les ressources parce que nos États se sont habitués à ne pas chercher les ressources en interne, toujours attendre des ressources de l'extérieur. Donc, à partir de nos ressources, je pense que cette indépendance économique, nous pouvons l'obtenir.
Bakabini Keïta, la France et ses partenaires annoncent leur retrait si à toute fois ce qu'ils appellent des mercenaires russes viennent au Mali. De quoi la France et ses partenaires ont-ils peur, concrètement?
Bon, écoutez, avant que je ne réponde à votre question, de quoi la France et ses partenaires ont peur, je pense que M. Ouattara l'a dit, M. Bokoum l'a dit. Je voudrais dire que je suis d'accord avec lui, sa façon de dire les choses, que la France est en train de perdre le Mali. Mais avant lui, il y a Antoine Glaser, il y a quelques années de cela, un analyste politique français, un journaliste analyste politique, qui a écrit un texte qui s'intitule « La France a perdu l'Afrique ». Donc lui ne dit pas que la France est en train de perdre le Mali ou l'Afrique, mais il affirme que la France a perdu l'Afrique.
Donc elle cherche sa tête.
Oui, elle cherche sa tête. Et là, je crois que son livre est parti de l'histoire du coup d'État de 1999 en Côte d'Ivoire. Avec contre Bédier, l'ambassadeur, le ministère des Affaires étrangères français appelle leur ambassadeur en Côte d'Ivoire pour lui demander le numéro du chef de la junte. L'ambassadeur répond qu'il n'avait pas le numéro. Et donc, c'est à partir de là qu'Antoine Glaser parle de l'idée que la France a perdu la... Autrement dit, il y a un coup d'État. On ne peut pas imaginer qu'un coup d'État puisse se produire dans un pays africain, d'un subsaharien, et qu'il soit fait à l'insu de la France. Sans un contrôle de la France. Et donc, c'est à partir de là qu'il est. Maintenant, pour revenir à votre question, de quoi la France a peur? La France a peur, bien entendu. La France a peur de la concurrence d'une autre puissance. La France a peur. Moi, j'ai entendu l'ancien ambassadeur français Nicolas Normand en train de dire que la France dépense 2 millions d'euros par jour au Mali dans l'intervention Serval, Barkhane, ensuite Takuba. Et ces 2 millions d'euros sont dépensés, sont financés par le contribuable français et non pas par le Mali. Donc c'est comme si l'intervention, la France intervient de façon gratuite pour les Maliens. Mais attends, moi je me dis, mais...
Y a-t-il un agenda caché de la France?
Non, mais écoutez, c'est pas question d'agenda. Mais moi je dis, mais de quoi ces gens nous prennent? Ils n'ont pas le monopole, qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas le monopole de l'intelligence. Nous avons étudié dans les mêmes écoles que les Français. Parfois, nous avons battu donc beaucoup de Français dans leur propre langue. Donc, il ne faut pas qu'ils comprennent que nous sommes aussi imbéciles que ça, sans comprendre les enjeux, en tout cas, de l'intervention française. Supposons que la France dépense 2 millions d'euros par jour. Donc, si on fait le calcul, ça fait 60 millions d'euros par mois. Et si on convertit en CFA, ça fait un truc de 39 milliards donc, par mois. Wagner ne demande que 6 milliards par mois. Donc, si vous faites tout de suite la soustraction, ça fait une différence de 33 milliards de francs CFA. Donc, vous imaginez, entre la France et la Russie, laquelle va coûter cher pour le Mali. Parce qu'on sait très bien que ces 39 milliards qui sont dépassés par le contribuable français, évidemment, d'une manière ou d'une autre, la France soutient. Donc la France a peur. La France est dans la logique, effectivement, de la défense de ses intérêts. L'autre l'a dit, De Gaulle l'a dit, la France n'a pas d'amis, la France a des intérêts. Et Macron vient de reprendre la même chose lorsqu'il a été interviewé par un journaliste en lui disant qu'Alassane dit qu'ils sont amis. Mais il a dit, Monsieur Jourdan, j'ai pas d'amis.
D'accord.
Ils n'ont pas d'amis. Donc la France n'a pas d'amis. La France a des intérêts. Donc la France a peur de perdre de ses intérêts. Mais ce que je voudrais te dire en terminant, c'est que l'idée du Premier ministre n'est pas de dire qu'il faut que la France en aille. Mais l'idée du Premier ministre, mais aussi du ministre des Affaires étrangères russe, leur idée consiste à dire, eh bien, nous sommes dans un contexte où aujourd'hui, on ne peut plus accepter le monopole français sur notre pays. Donc, il faut une diversification.
On n'a pas assez de temps. On va donner le dernier mot à Mohamed Mata Atouré. Cette option de rupture dont vous parlez de colonisation pourrait-elle ramener à la paix et la sécurité dans le pays?
Bon, cette rupture peut amener tout ce que nous voulons. Ça, il faut que nous ayons confiance en nous, qu'on se donne la main et qu'on prouve au monde que nous ne sommes ni Sonrail, ni Malinké, ni Dogon, ni Peul, mais que nous sommes des Maliens. Si nous avons la volonté de bien faire, je crois que nous le ferons bien et excellemment bien aussi.
Si nous avons la volonté de le faire, nous pouvons le faire bien. C'est sur ce mot de Mohamed Mamata Touré que prend fin ce grand dialogue qui réfléchissait sur le discours du Premier ministre tenu devant les Nations Unies. Nous étions avec Bakabini Keïta, politologue, Mohamed Mamata Touré, président de l'association Anko Mali, Boubacar Bokoum, politologue, à la régie vidéo, Mamadi Keïta, à la mise en onde, Gagné Kanté, à la coordination de ce débat, Sekou Gadjigo. Je suis Imran Akilo Maïga. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halou Gmoundi.
Chien Nibiri. Sigi Kafoba.